10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam au présent, on parle d'islam pendant une heure toutes les semaines, tous les samedis sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas?
Ben ça va bien. Jusque là ça va bien.
Eh ben formidable.
Après je vous dirai ça à la fin de l'heure si ça va bien. Une heure avec vous, c'est...
Alhamdoulilah. Ben, j'espère que toutes ceux, celles et ceux qui nous écoutent...
iront de mieux en mieux.
Iront de mieux en mieux.
Voilà, en nous écoutant. On pense à toutes les mamans qu'on va fêter demain. Alors, c'est la fête des mères, mais c'est la fête des mères tous les jours. Hein, Imam Abdelali, il n'y a pas besoin d'avoir un jour spécial.
Alors, il ne s'agit pas de fêter, il s'agit de commémorer, de faire un bilan sur comment on est avec, dans les relations qu'on a avec sa mère. Et je trouve que c'est bien, moi, qu'il y ait une opportunité, même si elle ne vient pas des musulmans ou des préceptes de l'islam ou des livres religieux, qui vient rappeler un moment dans l'année. Quelle est notre situation vis-à-vis de nos parents et notamment notre mère. Je rappelle qu'effectivement, on n'a pas de fête des mères en islam, hein, c'est sûr. Mais il existe, pourquoi pas, des événements culturels dans lesquels l'islam ne se prononce pas. On en parlera tout à l'heure, si tu veux bien, sur cette fête des mères. Mais moi, bon, ce que j'ai envie d'abord mettre en valeur, Philippe, c'est d'abord honorer les parents, mettre en valeur... le droit et le mérite de nos parents sur nous.
Hein, c'est-à-dire ?
Bah, écoute, moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est de nous rappeler, de faire ce qu'on appelle un certain rappel, comme le fait le khatib le vendredi, qui choisit un thème. Et bon, c'est vrai que ça tombe avec les parents, avec la fête des mères, qui est, je répète, un événement purement culturel. Si c'est culturel, là, ça devient une innovation égarante, détestable, hein, on peut parler comme ça. Mais ici, si c'est un événement purement culturel, rien en islam n'impose à ce que tout le monde se soumette aux cultures d'origine arabe ou d'origine je ne sais quelle. Chacun a le droit à avoir de profiter, de jouir de sa religion, mais avec sa religion, à partir du moment où les pratiques culturelles et les usages et les coutumes et les traditions ne viennent pas en contradiction, ne viennent pas s'opposer aux préceptes de l'islam, eh bien l'islam ne s'oppose pas à ce que ces traditions puissent être revivifiées, puissent être célébrées, puissent être, on va dire, tout simplement commémorées, etc. Tant que ça ne rentre pas dans le domaine du culte, dans le domaine de la pratique religieuse, qui je bien sûr je le précise et je le rappelle, est une exclusivité divine, puisque l'on doit adorer Dieu seulement, mais on doit l'adorer seulement avec les pratiques que lui nous a légiférées. On ne peut pas adorer Dieu en disant bah moi je vais m'inventer une manière de l'adorer à ma manière, puisque là on serait bien entendu dans le domaine de l'innovation, dans ce qu'on appelle en arabe la bid'a, al-bid'a sayya, de ce qui relève de la pratique. Omur al-ibadat, je le répète en arabe, la yajuzu ta'abbudu illa bima shara'a Allahu 'azza wa jalla. Amma fima yata'allaq bi al-umur al-thaqafiyya wa al-'adat wa al-taqalid fala haraja fi an al-insan yastamti' bil 'adat wa al-taqalid ma lam tu'arid wa ma lam yatata'arad ma'a al-shara' al-islami. À partir du moment où elles ne viennent pas s'opposer aux préceptes de l'islam, les traditions, les coutumes, les us, les usages, les coutumes et tout ça, il n'y a pas de mal à pouvoir en jouir. Une fois hier, il y avait une polémique sur le fait, tu sais, de joindre les deux mains comme ça, tu sais.
Ah oui, comme la prière.
Deux mains, les deux mains. Non, mais pour la salutation. Philippe, en Malaisie, en Indonésie, en Inde, c'est-à-dire en Asie en général, les gens, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup se saluent en tout simplement en joignant la paume des deux mains. Ils joignent la paume des deux mains comme ça. C'est vrai que ça ressemble aussi à certaines personnes qui pratiquent des religieux, mais à partir du moment où mon intention est purement de mettre en valeur, ou du moins de pratiquer une coutume, et non pas une pratique religieuse, eh bien, je suis tout à fait dans mon droit de le faire. Je dirais même, c'est même plus hygiénique. C'est même plus, d'un point de vue sanitaire, salutaire, que de se serrer la main. Tu sais comment ça se passe. Tu serres la main, tu me refiles tes microbes, je te refile mes microbes.
Vous remarquerez que je ne vous serre pas la main.
J'ai remarqué, oui, que tu n'as pas voulu me serrer la main
mais,
ce matin.
Non, mais je ne vous serre jamais la main.
Mais des fois, on se fait la bise. C'est pas mal.
Oui, mais ça, c'est pour l'Aïd. Voilà.
C'est pour l'aide.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des raisons. Mais on a perdu le sens de ces choses-là. Mais c'est vrai que certainement qu'à la base, il y a des raisons d'hygiène. À la base, ouais. Imam Abdelali. C'est récemment qu'on se fait la bise et qu'on se serre la main.
Ah ouais, c'est récemment.
Avant, les gens ne se faisaient pas la bise. La bise,
se serrer la main.
Ouais, mais la bise, c'était super.
C'était ancestral, puisque l'objectif de se serrer la main, c'était de s'assurer que la personne en face de nous ne porte pas une arme dans sa main. Donc chacun vérifiait la main de l'autre, elle était bien vide, quoi. Voilà, tu tiens ma main, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de poignard ou d'objet qui pourrait te faire du tort. Et c'était réciproque. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt que de faire cela. Donc se dire bonjour avec la bouche, ça me semble suffisant. Mais il y en a qui ont besoin de ce côté tactile, de ce côté charnel, de ce côté un peu. Pourquoi même on se fait des câlins, une mère avec son enfant, tout ça, c'est pour montrer de l'affection. L'affection s'y passe par le côté tactile.
Mais ça, c'est différent. On est dans un cadre familial.
Oui, mais même avec des amis, si ça se limite à la main, par exemple, le fait de sentir sa main dans la main, ça peut susciter. Une relation plus fraternelle, plus conviviale, ça aussi ça a son côté positif. Donc moi personnellement, celui qui pense qu'il est bien de se serrer la main, je ne pourrais pas m'opposer, parce que c'est même une tradition prophétique. Mais celui qui pense que pour des raisons d'hygiène ou autres, ou tout simplement parce qu'il faut changer ces traditions, ces coutumes ancestrales qui n'ont ni queue ni tête, eh bien oui, il est en droit aussi de le. Aujourd'hui, on accuse beaucoup les barbus, hein, vous savez, les fameux frères qui refusent de serrer la main aux sœurs, en disant ouais, c'est des intégristes, serre pas la main aux femmes. Mais est-ce que c'est forcément bien de serrer la main aux femmes, quoi, ou aux hommes, de toute façon, comme aux hommes comme aux femmes. Est-ce que c'est peut-être pas mieux que voilà, de garder ses distances et se respecter mutuellement et respecter le corps de l'autre en laissant à ceux qui le méritent le droit de toucher ce corps, bah, que sont ses enfants, sa femme, etc., ou ses parents, ou sa famille. Voilà, bon, maintenant, chacun est libre de juger les choses comme bon lui semble. Mais c'est vrai qu'il y a le raccourci, il est très vite fait entre refuser de serrer la main et la position intégriste.
Voilà, et on va vous accuser tout de suite d'être
intégriste. Moi, je connais un ami à moi qui devait être prof le jour de son passage d'examen du CAPES. Hein, il a réussi tous les tests. Hein, il arrive devant l'inspectrice là, de l'examen, là, qui lui tend la main. Il refuse de serrer la main, mais elle a été recalée pour ça. Il a pas obtenu son CAPES. Il dit, comment ça, je peux pas vous donner à vous votre diplôme d'enseignant de l'éducation nationale alors que vous refusez de serrer la main aux femmes. Hein, il a été recalé pour ça. Donc, vous voyez qu'il faut pas grand chose aujourd'hui pour tout de suite qu'on voit les choses.
C'était il y a combien de temps?
Ah, il y a quelques années. C'était avant le Covid.
Ouais.
Avant le Covid. Alors qu'aujourd'hui, avec le Covid, là, je crois pas qu'on aurait eu le même.
C'est-à-dire que voilà, avec le Covid, maintenant, c'est devenu presque une norme.
Alors que le gars, il a dit, mais au Japon, on serre pas la main. Au Japon, on met les deux paumes de la main l'une contre l'autre,
jointes.
Voilà, et on baisse un petit peu la tête et on dit sayonara, comment dire, sayonara, c'est ça, sayonara. Voilà, et puis le tour est joué et on passe à autre chose. Bah, il y en a, ils se font une fixation sur ça et c'est malheureux. Voilà.
Quel statut Imam Abdelali l'islam accorde-t-il à la mère?
Alors, bien entendu, l'islam rappelle les mérites de la mère. La mère, il dit que la mère est la source de l'affection. La mère est la source de la générosité, de l'amour dans une famille. C'est elle qui se fatigue, qui est celle qui porte les enfants, c'est elle qui donne naissance aux enfants avec difficulté, avec lourdeur, avec endurance et douleur. C'est elle qui veille la nuit pour s'assurer que ses enfants ne lui arrivent rien. Elle va se sacrifier pour eux. Elle va consacrer toute sa vie, tout son temps, toute son énergie, tout son argent, tout ce qu'elle possède, tout son être pour l'éducation de ses enfants et le bien-être de ses enfants. Elle va même veiller parce que son fils est malade ou sa fille est malade. Tant que ses enfants ne sont pas, dans un bien-être, elle ne peut pas ressentir ce bien-être. Donc la mère a tous les droits. À partir de là, quand l'enfant grandit, il lui doit tout, il lui doit le respect, il lui doit la considération, il lui doit ce qu'on appelle la bienfaisance, hein, la bonté pieuse, l'ihsan ou le birr, ce ihsan, ce birr, qui est un commandement de Dieu, pas simplement un devoir, mais un commandement. Vous imaginez, je parle de commandement de Dieu. Quand Dieu parle des deux commandements, c'est le premier, c'est de n'adorer que lui. Et tout de suite après, derrière ce premier commandement qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah, l'unicité de Dieu, vient tout de suite la bienveillance, la bienfaisance, la bonté pieuse à l'égard des parents. Il dit dans le Coran, wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Donc là, il parle des parents, mais quand un compagnon va interroger le prophète, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, quelle est la personne qui mérite le plus que je me comporte le mieux avec elle, qui mérite ma bienséance, c'est-à-dire mon bon comportement, ma gentillesse, ma bonne compagnie. Man ahaqqu an-nas bi husni sahabati, Ya Rasulallah. Et le prophète, tout de suite, sans aucune hésitation et sans aucune réserve, a dit, c'est ta mère. Qala ummuk. Il n'a pas dit, c'est moi, ton prophète, c'est ma personne, ou il a dit, c'est ta mère. Qala ummuk. Ensuite, le compagnon a voulu voir, mais je voudrais voir dans l'ordre, quelles sont les personnes qui sont dans l'ordre, on va dire, dégressif, qui sont les plus à même à que je leur accorde ma bienséance. Et là, il repose, tout maman, et qui ensuite, derrière ma mère? Eh bien, le prophète va dire, à ta mère encore. Il a dit, encore une fois, ta mère. Il est dit ensuite, la troisième, quelle est la personne qui mérite le plus? Eh bien, il dira encore ta mère. Et ensuite, à la fin, le prophète, alayhi salatu wassalam, à la quatrième fois, il lui dira ton père. Ton père en quatrième position. T'imagines, en quatrième position, trois fois, seulement après que la mère ait été citée trois fois comme celle qui mérite le plus le bon comportement avec elle. Bien entendu, le Coran est clair quand il relate un verset dans lequel et qui est lié à un personnage qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, un compagnon du prophète, qui s'était converti à l'islam, alors que cet homme de la Mecque, qui est un Mécois, était chouchouté par sa mère, à tel point qu'elle le couvrait de parfums, de vêtements en soie véritables, etc. Il était véritablement le chouchou de sa mère, choyé. Sa mère, elle avait, excuse-moi, tout donné pour lui. Et qu'à partir de là, lui s'étant converti à l'islam, elle a été profondément affectée, affligée par cette conversion. Pour elle, elle considérait comme inimaginable, impensable que son fils renie sa foi, la foi de sa mère, alors que il lui devait tout. Il lui devait tout. Et là, bien entendu, il est venu voir le prophète. Il lui a dit, Rasulallah, ma mère, elle est très très affligée. Elle a été jusqu'à se mettre au milieu de la place de la ville. C'est-à-dire, à Mecca, il y a une place hein, où tout le monde, quand ils veulent se réunir, ils se mettent là-bas. Elle s'est posée là-bas au soleil et elle a dit que je ne bougerai pas de cette place-là tant que mon fils ne reniera pas sa foi, hein, sa foi en l'islam. Et même si je dois mourir de soif et mourir de coups de soleil. C'est-à-dire que même si je grille au soleil, parce que là, à la Mecque, bien sûr, il fait au soleil, alors à Londres, c'est 45 degrés, mais au soleil, on est à beaucoup plus que ça, on a plus de 60 degrés. Hein. Donc, il lui a dit, le prophète n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre, il a laissé Dieu répondre dans Sourate Luqman, et il dit « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ » Et que si l'un d'entre eux, c'est-à-dire les parents, te pousse à associer à Dieu une autre divinité, c'est-à-dire renier ta foi, hein, dont ceux tu n'as pas de connaissance, ne leur obéis pas. Bien entendu, parce que le premier commandement, je le rappelle, c'est le tawhid. Rien ne passe devant le tawhid. La foi en un Dieu unique est devant tout, même devant les parents. Tu peux pas dire, voilà, je vais renier ma foi ou désobéir à Dieu pour plaire à tes parents. Tu ne peux pas désobéir à Dieu pour obéir à tes parents. C'est d'abord tu obéis à Dieu et ensuite tu obéis à tes parents. Et de toute façon, ce que te dira Dieu, c'est de respecter tes parents. C'est de te montrer bon, généreux, affectueux, bienveillant à l'égard de tes parents. Donc de toute façon, obéir à Dieu, ça n'est pas rentrer dans le camp du mal ou du diable. Au contraire, c'est, on parle de Dieu le bienveillant, Dieu le miséricordieux, qui ne souhaite pour son humanité que le bien et ne l'encourage qu'à accomplir que le bien. Donc se soumettre à Dieu, il faut se rassurer. Il ne s'agit pas d'un Dieu tyran, on parle d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu d'amour. Hein, si tu suis ses commandements, ne feront que t'accorder à toi d'abord tout le bonheur sur terre et dans l'au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui seront en relation avec toi, puisque de toi émanera que le bien. Donc il ne faut pas voir en Dieu un tyran qui nous demande de nous soumettre à lui. Oui, je n'ai pas de problème à dire me soumettre à Dieu, parce que me soumettre à Dieu, c'est tout simplement devenir quelqu'un de bien. Comme quelqu'un aujourd'hui se soumet à la loi, on se soumet tous à la loi, donc on est des bons citoyens en disant cela. Et parce que la loi est une loi qui a été choisie pour répandre l'ordre dans la société et non pas le chaos et le désordre. Donc, ça n'est pas en disant qu'on se soumet à Dieu ou se soumet à la loi qu'on est soumis, donc, ce qu'on appelle rabaissé, humilié, etc. Donc, il est très important de se rappeler combien nos parents, notamment notre mère, a des droits sur nous et qu'il faut à chaque fois ne pas oublier d'aller leur rendre visite, de demander de leurs nouvelles, de les appeler. Et que tous ceux qui aujourd'hui m'appellent pour me dire « Ouais, mais moi j'ai un problème avec ma mère, moi j'ai des différends avec ma mère », tu ne peux pas avoir des différends avec ta mère, parce que c'est ta mère, c'est pas ta copine, c'est pas ta sœur, c'est pas ta fille, c'est pas une étrangère, c'est ta mère. Il y a une sacralité, la mère a une sacralité qu'on ne peut pas déroger, qu'on ne peut pas...
Mais vous savez bien, Imam Abdelali, que les histoires de famille... Il y a la théorie et il y a la pratique.
Alors moi,
vous dites, c'est de la théorie.
Je te parle des bases. Moi, oui. Je te parle des principes. Les principes, c'est que tu n'es pas au niveau de ta mère. Maintenant, on va en parler si tu veux après la pause.
Vous savez à quel point c'est compliqué parfois de se réconcilier.
Mais on n'avait même pas à se chamailler avec sa mère. Sa mère, tu peux pas te chamailler avec ta mère. Tu ne peux que encaisser et te taire et attendre que la tempête passe. C'est tout. Et là, en faisant cela, tu réalises la réussite de l'examen, de l'épreuve suprême sur terre, de supporter mais parce qu'elle te doit, tu lui dois tout à ta mère. Tu peux pas te permettre de dire voilà, ma mère, je vais lui parler mal. De toute façon, on en parlera si tu veux après la pause.
On en parlera tout à l'heure.
La question sur les mères toxiques.
Et le standard d'ailleurs est à votre disposition. Hein. Vous pouvez poser vos questions. Alors on parle vraiment des mamans à l'occasion de la fête des mères demain au 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle du statut de la mère en islam. Hein. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. Vous avez prononcé tout à l'heure, imam Abdelali, le mot de toxique. Donc finalement, quel est le comportement qu'on peut avoir? Je mets des guillemets hein, parce que c'est vrai, je ne sais pas si le terme est propre ou pas d'ailleurs, quand on a une maman dite toxique.
Alors il y a un hadith du prophète que j'aime beaucoup, qui est rapporté par Ibn Hibban, dans lequel il dit Rahimallahu walidan a'ana waladihi ala birri. Akhrajahu Abu Shaykh Ibn Hibban. Dieu comble de sa miséricorde un père ou une mère qui aide son enfant à lui montrer de l'affection et de la bonté pieuse. Parce qu'un parent aussi peut rendre difficile sa relation avec ses enfants, tout simplement parce qu'il considère que comme lui, son père, lui avait imposé des choses qui dépassent les règles islamiques, et qu'il pense qu'il a tous les droits sur ses enfants, qu'il peut leur parler mal sans aucune raison valable, et que lui aussi il a le droit de faire ça avec ses enfants. Après, puisque ton enfant il est bien avec toi, pourquoi tu lui parles mal? Pourquoi tu le rends la vie difficile? Pourquoi tu lui compliques la vie? Pourquoi tu lui rends les choses difficiles? Il a déjà pas mal d'autres épreuves à surmonter dans la vie. Il a son environnement, la foi, la prière, plein de choses à supporter avec endurance, etc. Et toi, tu viens, tu rajoutes encore plus, alors que tu devrais l'aider. Depuis qu'il est petit, tu l'aides. Pourquoi là, à ce moment-là, tu veux, on dirait, te venger ou tu veux qu'on te rende la monnaie de ta pièce. Hein, parce que toi, tu as fait tout ce que tu as fait quand il était petit. Alors, tu veux maintenant... Il y a même des parents qui vont jusqu'à spolier l'argent de leurs enfants. Il dit, tu me donnes ton argent. Il exige que, ou bien tout simplement, le gamin il achète une maison, il dit c'est moi qui gère. Le père il vient, il dit c'est moi, t'es mon fils donc la maison est à moi. Et ouais, mais sa femme elle est là, il dit ouais, mais attendez monsieur, on l'a payé avec notre argent, hein. C'est pas avec votre argent, je suis désolé. Ah, mais c'est quoi ça? Tu viens, tu t'imposes et tu exiges de ton fils des choses. Ton fils il est marié, il a fait son autonomie. Est-ce que toi, ton père, il est venu. Comment je pourrais dire, s'imposer dans ta vie et venir décider à ta place. Il y en a, ils disent oui. Alors donc moi je fais ça à mes enfants. Mais est-ce que c'est ça l'islam? Ça la question. La réponse est non. Un enfant, un père doit et la mère aussi doivent laisser leurs enfants tranquille, notamment quand ils sont mariés, ils ont une autonomie. On n'a pas à venir se mêler de l'éducation, comment ils gèrent l'éducation de leurs enfants. On peut donner des conseils, mais on donne des conseils aux parents et occasionnellement. Faut pas que ça devienne un matraquage constant. Ouais, t'as vu comment tu parles à tes enfants. Ouais, t'as vu comment tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent. Ouais, t'as vu tes enfants ceci cela. Ah ouais, c'est pas tes enfants. Laisse-moi gérer mes enfants. Tu n'as pas à me bombarder comme ça jusqu'à qu'à la fin je suis dégoûté, j'ai plus envie de venir te voir. Et donc tu aides tes enfants à finalement à manquer de respect et à manquer de considération vis-à-vis de ceux à qui Dieu a accordé une sacralité, que sont les parents. Donc رحم الله امرأ أو رحم الله والدا أعان ابنه أو ولده على بره. Dieu comble de miséricorde celui qui aide ses enfants à lui montrer de la bonté pieuse. Donc aidons nos enfants à nous respecter en se comportant bien, en étant bienveillants à l'égard aussi de nos enfants, pour qu'eux aussi nous manifestent de la bienveillance. C'est tout simple. Là-dessus, il y a énormément de hadith, hein. C'est vrai qu'il donne raison aux parents, dans lequel, par exemple, vous avez un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit ya rasulallah, alors non, il dit le prophète a dit ma min muslimin yusbihu wa walidahu anhu radiyani illa kana lahu baban min al-jannah. Il n'y a pas un musulman qui se lève le matin alors que ses parents sont satisfaits de lui sans que deux portes du paradis lui soient ouvertes. Eh bien, si l'un des deux est satisfait, eh bien c'est l'une des deux portes du par une de ces deux portes là qui est ouverte et l'autre reste fermée. Wa in kana wahidan fa wahid wa man muslimin yusbihu wa walidahu alayhi sakhitan illa kana lahu baban min an-nar. Eh bien si les parents, eh bien la personne se lève et ses parents ne sont pas satisfaits de lui, eh bien ce sont deux portes de l'enfer qui sont ouvertes, et si c'est l'un d'entre eux, eh bien, c'est l'une des deux portes de l'enfer qui s'ouvre pour lui. Et là, un compagnon a dit, ya Rasulallah, fa'in zalama. Et si l'un ou les deux parents ont fait preuve d'injustice envers leur enfant, ont fait du tort à leur enfant. Et là, le prophète a dit, wa in zalama. Même s'il a été injuste. Il va jusqu'à là défendre ce droit des parents sur les enfants. Maintenant, est-ce que si mes parents sont injustes avec moi, j'ai une obligation vis-à-vis d'eux, de continuer à constamment me laisser subir cette injustice, si je sais que pertinemment, si je vais aller les voir, c'est pour subir d'eux. Eh bien, nous répondons oui, tu dois aller rendre visite à tes parents occasionnellement et suffisamment, mais bien entendu, à partir du moment où ils commencent à te porter une injustice, du tort, ou te faire du tort, tu es en droit de te lever sans dire un mot, sans rétorquer, sans répondre, sans donner coup pour coup, à fermer sa bouche, prendre son mal en patience, prendre avaler tout ça en soi, prendre ses chaussures et sortir et partir de Goussa Salam. Alaykoum maman, je te laisse parce que je vois que t'es pas bien, t'es un peu énervé. Voilà. Et il s'en va tranquillement. Il sait que sa mère a été injuste, il sait que son père a été injuste, d'accord, mais cela ne justifie en aucun cas le droit de répondre et de rétorquer comme elle l'a fait sa mère, sous prétexte qu'elle a été injuste avec lui. Donc je répète, il y a une sacralité, c'est particulier les parents. On peut pas faire ce qu'on veut avec les parents. Et vis-à-vis des parents, on a un devoir de réserve, de retenue, de bienséance, de bonté pieuse, même s'ils t'ont fait du tort. Tu patientes, tu prends ton mal en patience. Et ma mère, elle m'a pris un bijou, elle veut pas me le rendre. Qu'est-ce que j'ai rien à faire, c'est un bijou. Et ma mère, c'est elle qui me fait rentrer en enfer, c'est elle qui me fait rentrer au paradis. Donc je fais attention. Maintenant, je lui demande gentiment, elle veut pas, tant pis, c'est pas grave. On va pas faire des histoires pour ça. Il y en a, moi, Philippe, c'est ça qui est une horreur. On en parlait hors antenne, mais il faut que les gens entendent aussi cette réalité-là, cette horreur qu'il y a au quotidien, hein, qui consiste à pratiquer l'un des sept péchés capitaux qu'on appelle en arabe « uquq al-walidain ». Et l'une des manières de pratiquer le uquq, c'est-à-dire la malveillance envers les parents, c'est tout simplement, parfois, de les insulter ou de les malmener. Il y en a même, Philippe, c'est une horreur de le dire, mais il faut le dire, qui vont lever la main sur leurs parents. Ils vont jusqu'à frapper leurs parents.
Qui sont âgés, hein.
Ouais. Non, bah oui, parce qu'il est trop lâche, le gamin, pour toucher à son père s'il sait qu'il est capable de lui rétorquer, de lever la main sur lui. Mais même comme ça, ça existe.
On a chez... Il y a les gamins qui tapent sur leur mère, ouais.
Sur leur père aussi. Oui, le père aussi. Et même le garçon qui est juste un petit peu plus fort que son père, ben maintenant, ça y est, il se dit, maintenant, je suis en droit de me défendre. Mon père, s'il me dit du mal ou il dit quelque chose qui me plaît pas, ben je vais lui mettre une tarte. Et voilà. Et normal pour eux de lever la main sur leurs parents. C'est tout simplement scandaleux, une honte. En tout cas, ce que l'islam réprouve c'est-à-dire montre son total désaccord total. J'irais même, c'est une presque une mécréance. Tu te jettes la tête le premier dans l'enfer en faisant cela. tu quittes tes parents après l'avoir levé la main sur eux, ils pleurent, et tu laisses couler une larme sur le visage de ta mère après lui avoir levé la main sur elle. C'est tout simplement un des actes les plus horribles que l'islam considère. Il y a pas pire derrière cela que la mécréance. Et va juste dire, il dit je crois plus en Dieu et va faire ça. Puisque voilà, si tu vas jusqu'à lever la main sur tes parents, là c'est fini, il y a plus rien à faire. Maintenant, je répète, même un regard. Il y a même des compagnons, vous savez, qui nous apprennent comment se comporter bien avec leurs parents. Au moment où est-ce qu'ils posent sur la table la nourriture, eh bien, ils vont jusqu'à parfois attendre que les parents mangent, que eux ils aient, pour pas que lui mette sa main sur un endroit où les yeux de sa mère a mis ses yeux qu'elle avait envie, c'est cette partie-là qu'elle voulait du plat. Eh bien, lui, il va retirer sa main et il va attendre que sa mère soit totalement satisfaite de ce qu'il y a dans le plat, qu'elle ait mangé ce qu'elle avait envie, ce qui lui plaisait dans le plat, parce que des fois, souvent, on peut manger dans un même plat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir deux assiettes comme ça. On est tranquille, on va pas effectivement. Mais en tout cas, il faut s'assurer de faire plaisir totalement à ses parents quand on est avec eux et quand on est avec surtout avec sa mère. Eh bien, c'est très important de continuer à faire preuve de bienveillance et de fêter la fête des mères toute l'année. Toute l'année, c'est la fête des mères. Il n'y a pas au demain, dimanche, la fête des mères. Le 29 mai, c'est la fête des mères. Non, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, c'est la fête des mères. Tous les jours, j'apporte un pot de fleurs, un bouquet de fleurs. J'apporte ce qu'on appelle un plateau de gâteau. J'apporte, un couffin avec de la nourriture. Tous les jours, dès que j'ai l'occasion, mes parents sont là, je prends soin d'eux. Le prophète, alayhi salatu salam, quand il est monté sur l'estrade, sur le mimbar, et il a dit Amin, les compagnons ont dit, Arsala, pourquoi on t'a entendu dire Amin? Il a dit, Jibril est venu me voir, et il m'a dit, Man adraka walidayhi walam yutrilahu al-jannah ab'adahu Allah. Que celui qui a eu l'opportunité d'être avec ses parents et qui ne l'ont pas fait rentrer au paradis, que Dieu l'éloigne du paradis, que Dieu l'éloigne de la miséricorde de Dieu. Et là, moi, j'ai dit Amin. Donc, même le prophète a fait une le prophète a fait des invocations contre ceux, ou ce qu'on appelle des imprécations. Vous savez le terme imprécation, Philippe? Imprécation, c'est le contraire d'une invocation. Invocation, c'est en principe positif. On prie pour toi, alors qu'une imprécation, c'est prier contre toi. C'est invoquer contre toi la malédiction divine, par exemple. C'est ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wasalam. Il a fait une imprécation contre ceux qui se comportaient mal avec leurs parents. Quand Jibril a fait cette invocation, il a dit Amin. Amin, c'est-à-dire que Dieu exauce. Allahumma stajib. Amin, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot Amin. Amin, ça veut dire Allahumma stajib. Oh mon Dieu, exauce. C'est ce qu'on appelle en arabe dans la grammaire ism fi'l, un nom verbe, un nom nom, nom, un nom comme un nom prénom, voilà, et non pas le nom contraire de oui. Donc nom verbe, un nom qui est un nom et à la fois un verbe, ism fi'l, qui veut dire Allahumma stajib, qui est un verbe à l'impératif, qui veut dire oh mon Dieu exauce. Donc il est très important, comme je le disais, de faire preuve de bienveillance à l'égard de sa mère. C'est une occasion, je dis bien, demain, et on en parlera si tu veux après la pause, je pense qu'on a un peu de temps après la pause, pour en parler du statut en islam que Dieu accorde au fait de célébrer la fête des mères.
01 53 48 3000, si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, profitez-en jusqu'à 11h, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous êtes très nombreux à vouloir poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. On prendra vos appels dans un instant au 01 53 48 3000. D'ailleurs, si vous ne pouvez pas passer à l'antenne, je vous rappelle que l'imam Abdelali Mamoun vous donne un numéro de téléphone. D'ailleurs, si vous ne voulez pas y passer, parce que vous avez des questions justement familiales, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, vous pouvez l'appeler directement, mais après l'émission, hein, imam Abdelali.
Tout à fait. Alors, c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Alors, c'est ce numéro-là que l'on utilise pour me poser des questions. Et pour ceux aussi qui souhaiteraient faire le Hajj ou la Umrah cette année.
Et il y a encore de la place.
Oui, il y a de la place, il n'y a pas de difficulté. Surtout pour la Umrah aussi, hein. Le Hajj, il y en a. Ah oui, tout de suite, les gens appellent. Alors oui, bien sûr, je vous ai dit que d'appeler après l'émission.
Ce qui est bien, c'est que vous avez mis votre téléphone en silencieux. Ça, ouais, c'est, là, ça c'est bien, par contre.
Philippe, parce que ce téléphone-là, je ne le vois pas assez bien. Je viens de l'acheter. C'est un nouveau téléphone. Tiens, voilà, silence, c'est comme ça que ça marche.
Ah ouais, l'imam, il a les moyens. Vous avez vu ça, l'imam, il a téléphone.
Ouais, regarde, t'as vu, il est tout neuf.
Là, téléphone, ouais, il y a même encore le prix. Il y a même encore le prix derrière. Non, c'est quoi?
Je sais pas, j'ai un code barre, je crois que c'est.
C'est l'étiquette. Bon, alors retournez votre téléphone.
Alors, je disais que le 06 29 25 35 00 est le numéro que l'on utilise pour poser vos questions, pour s'inscrire pour la Umra et le Hajj, mais aussi pour s'inscrire pour organiser une Umra ou un Hajj par délégation. Ceux qui veulent, par exemple, financer un Hajj ou une Umra pour une personne décédée, ou une personne très malade, une personne qui ne pourra jamais y aller. Eh bien, le Hajj par délégation est quelque chose de légiféré en islam. Il est tout à fait autorisé, tout à fait même recommandé, puisque c'est une des meilleures sadaqas que peut faire quelqu'un. C'est de financer une Hajj, notamment s'il n'a jamais fait le Hajj. Hein, il faut le financer que seulement si la personne, elle n'a pas fait le Hajj. Hein, cette personne avait l'occasion de faire le Hajj, mais elle n'a pas pu y aller. Et vous, derrière, vous faites le nécessaire pour qu'elle puisse quelqu'un puisse y aller à sa place. Eh bien, c'est très bien. Dieu, bien entendu, lui comptera le jour du jugement dernier comme une hajja complète. Donc faites le 06 29 25 35 00. J'ai pas terminé l'histoire de Mus'ab ibn Umair, qui, quand le prophète lui a dit le Coran dit clairement que tu ne peux pas obéir à ta mère si elle t'appelle à désobéir à Dieu, hein, certes. Et donc, c'est ce qu'il a fait, Mus'ab ibn Umair, alors qu'il était chouchouté par sa mère. Il est parti voir sa mère au milieu de la place. Il lui a dit, maman, tu sais, si tu avais même sans âme, sans vie, et que tu mourrais, et que tu ressuscitais, que tu remourrais 100 fois, je ne quitterais pas la religion de mon prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, elle a compris que ça ne servait à rien ce qu'elle faisait, et donc elle a arrêté de se mutiler, hein, de se faire du tort en se mettant au soleil et sans eau, sans rien. Et elle a compris qu'il n'y avait rien à faire. Mais par contre, elle l'a privé de tous ces privilèges qu'il lui avait accordés avant qu'il soit converti à l'islam. Bien entendu, il est devenu l'un des plus pauvres compagnons de Médine, de la Mecque, à tel point que le prophète l'a envoyé comme ambassadeur des musulmans pour qu'il aille prêcher l'islam à Médine. Et c'est Mus'ab ibn Umair, qu'on appelle Safir l'islam, cet ambassadeur de l'islam, qui a converti des milliers de compagnons, d'hommes et de femmes à Médine. Et c'est ce qui a permis, bien sûr, l'immigration, cette hijra de la Mecque vers Médine, vers une ville où est-ce que déjà Mus'ab ibn Umair avait fait tout le travail de convertir les gens à l'islam. Il va mourir la troisième année de l'hégire, dans la bataille de Uhud. Il va tellement être pauvre, tellement il est pauvre, qu'on ne retrouvera pas de linceul pour le couvrir. Hein, Philippe, il n'y aura pas de linceul, il y aura un morceau de tissu que si tu couvres la tête, eh bien, ses pieds sont dévoilés, et que si tu couvres ses pieds, eh bien, sa tête est dévoilée. Donc, le prophète va privilégier de couvrir la tête et de mettre quelques morceaux de feuilles mortes, des feuilles des palmiers, pour qu'on puisse lui couvrir le corps. Parce qu'il faut couvrir le corps d'un défunt avant de l'enterrer sous terre. Et dans la bataille de Uhud, justement après la bataille de Uhud, Mus'ab ibn Umair va être enterré, et bien entendu, pour qu'il puisse obtenir l'immense récompense qu'il l'attend, Inch'Allah, bien entendu, dans l'au-delà. C'est l'un des martyrs qu'on appelle le cimetière des martyrs de Uhud, où est-ce que l'oncle du prophète, Hamza ibn Abdul Muttalib, Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Jubayr, le frère de lait du prophète aussi, est mort lors de cette expédition qui s'est passée juste à côté de la ville de Médine, puisque là, ils étaient, bien entendu, en position défensive. Hein, les agresseurs étaient les Mécois, et les compagnons n'ont fait que se défendre. Il y en a qui disent, ouais, mais regardez, vous voyez, on a le droit à faire le jihad, on a le droit d'aller combattre les mécréants, puisque le prophète, il a fait. Non, là, il était en position défensive. Il s'est tout simplement défendu. Et la légitime défense est quelque chose qui est reconnu mondialement, comme dans le droit international et y compris dans le droit français. Donc, on doit se défendre quand on est agressé. On doit défendre une personne qui est agressée. On doit porter assistance à une personne en danger, mais on ne doit pas agresser volontairement pour quelle que soit la raison, même si on a raison, même si on est dans notre droit. Eh bien, on ne fait pas sa propre justice soi-même. On va porter plainte et on laisse la justice du pays dans lequel on est faire son travail et obtenir de gains de cause. On ne se venge pas de soi-même. Ça, c'était une petite parenthèse. Tout cela pour revenir à notre fête des mères. La fête des mères, Philippe, comme je le rappelle, s'il s'agit d'un acte rituel dans lequel je vais associer des rites, des pratiques. Je vais, par exemple, salir ka'atayn en famille, on va faire une prière, on va faire des invocations, etc. Ça, bien entendu, c'est une totale innovation. Ça n'est pas appréciable.
D'accord. Mais donc, si techniquement, demain, on va avec des fleurs, bonne fête, ma petite maman,
avec cadeau,
et qu'on fait un repas, voilà.
Moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est pareil pour l'anniversaire, c'est pareil pour toutes les fêtes.
Mais là, vous dites vous, mais globalement, est-ce qu'il y a des avis qui divergent par rapport
Les avis de ceux qui veulent imposer les coutumes et faire de l'islam une religion culturelle, une religion de coutumes qui impose à tout le monde la même culture et la même coutume, oui. Ces gens-là veulent imposer à tous en disant que l'islam n'a rien laissé de côté et qu'il gère, il te gère comme on gère un robot, qui t'impose, quelle que soit la manière, par exemple, il t'impose de manger par terre, de manger avec les doigts, de ne pas utiliser de fourchette, de ne pas t'asseoir sur un cabinet de toilette, ce qu'on appelle le fameux toilette anglais, vous savez, le fameux.
Sur le trône.
Ouais, mais à l'époque des Arabes, c'était des WC turcs, donc c'est-à-dire l'équivalent de WC turcs, par exemple. Donc, on voudrait nous imposer tout ça. Donc, finalement,
ceci dit, c'est quand même beaucoup plus hygiénique, hein, les toilettes à la turque.
Je sais pas, Philippe, je suis pas sûr, je suis pas si convaincu que ça, parce que bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ceux qui veulent utiliser, à partir du moment où, quand ils sortent des toilettes, ils sont propres. Et ils sont nettoyés. Il y a, par exemple, utilisation des papiers toilettes aussi. Ou des lingettes hygiéniques. Moi, je pense que la lingette hygiénique est plus, propre et plus mieux, et mieux que l'eau. Utiliser mieux que d'utiliser de l'eau. Parce que l'eau, elle va quand même laisser les odeurs. Alors qu'utiliser une lingette qui est hygiénique, il y a à la fois, de l'eau, il y a à la fois de la matière qui va empêcher qui va isoler tes doigts des impuretés.
J'aurais pas dû vous lancer.
Voilà,
ça,
c'est pas grave. Et bien tout ça, à partir du moment où l'homme va innover, je dis bien dans l'innovation des choses de la vie d'ici-bas, des choses de la vie, cela est tout à fait louable, tout à fait appréciable. On ne parle pas à ce moment-là d'innovation égarante. Je répète que l'innovation ne concerne que les pratiques religieuses. Al-aslu fil ibadat al-hurma. La règle juridique, c'est que toute chose illicite, c'est qu'on prouve le contraire. Et toute pratique religieuse est interdite, c'est qu'on prouve le contraire. Je dis bien pratique. Pratique religieuse, c'est-à-dire acte d'adoration. Donc si ça n'est pas un acte d'adoration, j'ai le droit de le faire. Donc y compris l'anniversaire, la fête des mères, j'ai envie de fêter la fête des voisins, la fête des nuages, j'ai envie de fêter les chaussettes, j'ai envie de fêter tout ce que j'ai envie de fêter, c'est mon problème. Ça relève de mes coutumes, de mes de ma culture. Tant que je ne mêle pas la religion à cela.
Mais est-ce que la fête des mères est commémorée dans les pays musulmans ?
Oui, maintenant de plus en plus, c'est vrai, mais ils le font par imitation. Ils le font par imitation. Ils considèrent que l'Europe et l'Occident est le centre du monde qui impose sa culture dans le monde entier et que ça fait style, ça fait moderne que de ressembler et d'imiter les Occidentaux. Et notamment, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est au milieu, là. On vit à l'intérieur du territoire occidental. Mais dans le monde arabe, beaucoup d'imams vont s'opposer à ces fêtes-là. Non pas parce que la fête en elle-même est interdite, mais va dire, mais pourquoi vous imitez les autres? Vous avez vos propres coutumes, faites-les. Pratiquez vos propres coutumes. Pratiquer vos propres... Et donc, c'est cette imitation aveugle considéré comme un complexe identitaire que dénoncent ces savants-là et ces intellectuels musulmans qui disent, mais pourquoi vous ne suivez pas vos propres coutumes? Vous êtes en droit de ne pas suivre... Pourquoi vous sentez obligé d'aller suivre les modes occidentales, les pratiques occidentales? Tout ce que fait l'Occident, c'est bien. Tout ce que nous avons comme héritage culturel ou des coutumes, c'est forcément pas bien. C'est complètement absurde. Et il y en a qui vont carrément délaisser les pratiques religieuses pour s'accommoder aux coutumes occidentales. Et là, c'est là seulement que les imams devraient intervenir. Et seulement dans ce domaine-là. Mais on va dire que si maintenant, on est dans une logique antagoniste, où est-ce qu'on considère que tout ce qui vient de l'Occident, c'est mal, c'est complètement absurde. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Occident et qui sont très bien. Ces coutumes, comme par exemple, je dis la fête des mères, il n'y a aucun problème. Je commémore et je remets en cause, voilà, les relations que j'ai avec ma mère. Je fais un bilan sur moi-même, sur la relation que j'ai avec ma mère et mon père. Je dis voilà comment je suis avec ma mère. Donc je vais aller la voir, je vais faire un câlin, bisous maman, etc. Et là, à ce moment-là, ça va me remotiver à ne pas oublier ma mère, même en dehors de la fête des mères. Je vais revenir la voir plus souvent et ça va créer une dynamique. Pourquoi pas? Il est où le problème? Et l'anniversaire, pareil. C'est l'anniversaire de mon petit frère, bah, je vais enfin me réconcilier avec lui parce que je t'ai embrouillé avec lui. Ou au contraire, je vais lui montrer encore plus de compassion et d'amour que doit une sœur à son frère, etc. Il n'y a aucun problème, c'est très bien. Je lui offre un cadeau et il va véritablement se dire, voilà, moi je suis dans une famille qui m'aime et je suis bien dans ma peau parce que ceux qui sont autour de moi, ils m'aiment. Et ça, c'est très important dans l'émancipation psychologique d'un enfant. De sentir que tous ceux qui sont autour de lui, il l'aime. Et donc, il grandit, il est heureux. Et en plus, il réussit. Et il a plus à même je connais des familles où vous avez un frère qui a été délaissé, il est parti en vrille, et celui qui au contraire qui était chouchouté, c'est lui qui a réussi dans la vie. C'est souvent comme ça que ça se passe, Philippe, malheureusement. Normalement, on ne doit pas faire de différence entre les enfants. Il faut leur accorder la même affection, la même compassion, la même générosité, la même attention les uns les autres. Et là, on ne doit pas faire de différence, comme le dit le prophète, ittaqullaha wa adilu bayna abnaikum. Quand un compagnon, un homme qui était un bédouin, a vu le prophète mettre sur ses genoux ses petits-enfants, ce qu'on appelle donc sa petite fille et son petit-fils, et là il a dit au prophète, ya Rasulallah, j'ai 10 enfants et jamais j'ai mis l'un d'entre eux sur mes genoux. Le prophète lui a dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu il a enlevé la miséricorde de ton cœur? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu a enlevé de ton cœur la miséricorde? Les enfants, c'est pour leur... le gars était fier, soi-disant. Ouais, regarde, moi, je suis un bonhomme, moi, je suis viril, moi. Je ne mets pas des enfants sur mes genoux, j'embrasse pas les enfants, moi. C'est la honte, embrasser, c'est les femmes qui embrassent les enfants, moi, j'embrasse pas mes enfants. Donc c'est complètement absurde. Le prophète lui a dit, mais c'est nul ce que tu fais, toi. C'est quoi cette virilité à dessous? Il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut montrer de l'affection à ses enfants, car si toi tu leur accordes cette affection, eh bien ils te le rendront. Maintenant, c'est vrai que on a que le fruit de ce que l'on a semé. On s'est mal comporté avec ses parents, ou du moins voilà. Et puis les enfants nous le rendent.
Bien, en attendant, bonne fête à toutes les petites mamans demain et passez de bonnes fêtes avec vos mamans. On vous retrouvera samedi prochain, Imam Abdelali Mamoun, dès 10h pour l'Islam au présent sur Beurre FM.
Retrouvez l'Islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.